13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. L'actualité cette semaine, c'est l'offensive qui se poursuit en Syrie contre l'ultime bastion de l'État islamique. Didier François a passé 2 semaines aux avant-postes de la bataille d'El Barouz. Il va nous raconter ses combats très violents et sa rencontre avec une femme, la femme du djihadiste français Jean-Michel Klein, alors qu'elle fuyait El Barouz. Un témoignage exceptionnel, vous l'entendrez. Chloé Triomphe nous racontera les coulisses du procès de Bernard Tapie qui a débuté lundi à Paris. Bernard Tapie jugé pour escroquerie, très offensif, littéralement habité par cette affaire de l'arbitrage avec le Crédit Lyonnais. Nous irons dans le Puy-de-Dôme avec Carole Ferry. On s'y prépare à accueillir en juin les premiers volontaires du service national universel. Et puis vous saurez tout avec Jen Senouda sur le mystère de la Joconde nue, dessin ou pas exécuté par Léonard de Vinci. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et nous commençons Tout Terrain par une plongée exceptionnelle au cœur de la bataille contre l'ultime bastion de l'État islamique qui se poursuit toujours en Syrie. Avec moi en studio Didier François.
Bonjour.
Bonjour. Grand reporter à Europe 1, vous venez de passer 15 jours en Syrie, aux avant-postes, on va l'entendre, de l'offensive qui a été lancée par la coalition internationale il y a 15 jours contre la poche d'El Barouz. C'est un réduit d'à peine 0,5 km² à la frontière irakienne. C'est la dernière zone territoriale contrôlée par le groupe État islamique aujourd'hui.
Oui, exactement. C'est vraiment le tout dernier petit carré, c'est le dernier réduit qui est juste sur la frontière, qui longe l'Euphrate avec l'Irak. Et ils ont en fait tous les combattants et leurs familles qui ont reculé depuis Mossoul, Raqqa, Jin, sont maintenant concentrés là et se sont retranchés. C'est une immense plaine entourée de fermes. Ils ont fortifié l'ensemble de ces fermes, ils ont creusé des tunnels et c'est là-dedans qu'ils tiennent aujourd'hui le siège qui est organisé par les forces kurdes, appuyées par les forces spéciales de la coalition occidentale.
Alors depuis 2 semaines, vous nous avez fait vivre les temps forts de cette offensive. Vous êtes allé en première ligne, au plus près des combats. On va réécouter justement un extrait de votre reportage. C'était le 4 mars dernier dans Europe 1 va plus loin, dans la matinale présentée par Pierre de Villeneuve.
Après 7 ans de guerre acharnée, Daesh ne tient plus qu'une toute petite localité à la frontière avec l'Irak, c'est Barouz. Didier François, grand reporter Europe 1, on vous retrouve à Barouz. Didier, quelle est la situation ce matin ?
Eh bien, après 2 jours de combats très intenses, les milices kurdes ont déjà bousculé toute la première ligne de défense de Daesh. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner sur le front le commandant d'une des colonnes d'assaut, le commandant Roustan Asake. Une progression en discrétion à la faveur de la nuit, mais les combattants kurdes sont rapidement repérés, puis pris à partie par les djihadistes. Les miliciens kurdes se mettent immédiatement à couvert et Rostom installe son poste de commandement sur la terrasse d'une ferme imposante qui domine l'ensemble du champ de bataille. Car il est vraiment temps d'organiser la riposte et d'appeler à la rescousse les bombardiers de la coalition qui tournoient en permanence au-dessus de nos têtes. Quelques minutes plus tard, un avion des forces spéciales américaines vient déverser un torrent de feu sur la cible désignée. Le commandant Rostom, après un retour au calme.
Ils envoient beaucoup de kamikazes contre nous, même des femmes et des enfants. On fait face à un ennemi qui mène des attaques en permanence. Alors depuis la reprise des combats, on a quand même réussi à reprendre 13 ou 14 positions. Et puis de toute façon, là-bas, maintenant, ils sont complètement encerclés. Moi, j'espère vraiment que ça va finir vite, dans les 2 jours. Comme ça, on pourra enfin souffler un peu et en finir une bonne fois pour toutes avec ces extrémistes.
Voilà un extrait de votre reportage, c'était le 4 mars.
C'était le début de l'offensive.
Le début de l'offensive, il espérait le commandant kurde. On va y revenir, que ce soit fini en 2 jours, c'est pas vraiment le cas. On entend que vous êtes en première ligne. Concrètement,
oui,
ça veut
mètres.
Dire quoi ?
Alors là, la première ligne, c'est 70 mètres de la position adverse. Voilà, c'est en grosso modo la profondeur d'une bataille. C'est le contact, c'est entre 30 et 70, c'est la zone des 100 mètres. Les appuis, c'est la zone qui va jusqu'à 300 mètres. Et puis après, c'est les arrières.
Et concrètement, ça veut dire que vous vivez avec les forces kurdes que vous accompagnez ?
Oui, voilà, c'est ça. Je suis avec les combattants. En fait, on fait une progression. On s'infiltre de nuit avec eux. On vit avec eux. On dort par terre, dans la poussière. On n'a pas d'électricité, ce qui rend les choses parfois compliquées. Il faut faire des allers-retours sur l'arrière pour pouvoir recharger les appareils. On a peu d'eau, pas grand-chose à manger. Voilà, il y a le stress du combat. Beaucoup d'attentes aussi, puisqu'entre les phases de combat, il y a quand même des phases longues d'attente. Voilà. Et puis, des difficultés énormes de communication. Là, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'on est hors zone, il n'y a pas de couverture.
Oui, vous êtes vraiment habitué à ces zones de combat. Hein. Oui. Vous avez suivi tous les temps forts de l'offensive avec notre autre grand reporter, Gwendoline Debono. Mais vous m'avez vraiment dit, là, pour émettre, c'était vraiment compliqué. Là, on vient d'entendre une trentaine de reportages. Vous avez mis combien de temps à l'envoyer à la rédaction?
Alors, voilà, ça, normalement, ça passe en 30 secondes sur un téléphone portable. Là-bas, il a fallu 30 minutes en utilisant ces grâce à CNN, en fait, parce que...
Alors, expliquez-nous.
Parce que même mon satellite n'arrivait pas à accrocher le SAT, enfin, parce que la bande passante était quasiment totalement utilisée par les forces militaires occidentales qui soutiennent les Kurdes, donc même CNN, qui a une énorme logistique, avait du mal. Ils avaient un générateur, ils avaient deux valises SAT assez grandes, avec des triples têtes, donc ça faisait... pour accrocher le satellite, et même comme ça, il a fallu plus de 30 minutes pour faire passer l'affaire. En tout cas, grâce à eux, j'ai pu envoyer mon reportage.
Qu'est-ce qui explique que ce soit aussi compliqué sur cette zone-là particulièrement? Parce qu'on pourrait se dire que c'est l'ultime bataille et qu'au contraire, les communications sont surdimensionnées.
D'abord, non, parce que justement, ils se sont regroupés dans les derniers endroits qui sont les endroits les plus lointains, les plus inaccessibles, les plus difficiles.
Où il y avait zones blanches, en quelque sorte.
Oui, ce sont des zones où il n'y a pas de couverture de réseau téléphonique, il n'y a pas d'électricité, l'électricité a été coupée, il y a très peu d'eau. Et encore une fois, le seul satellite qui couvre la zone est, bien entendu, sursaturé par les communications militaires, parce qu'il y a toutes les images de drones, toutes les communications cryptées, tous les postes de commandement, voilà, donc tout ça... Ça fait quand même de la bande passante.
Alors, on entendait le commandant kurde tout à l'heure qui espérait que ce serait fini en deux jours. On était donc, je le disais, le 4 mars, deux semaines après les combats, sont loin d'être finis. Qu'est-ce qui ralentit l'offensive? On a entendu, les combats sont particulièrement violents. Ils se poursuivent en ce moment.
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le souci des Kurdes, à juste titre, d'éviter de perdre trop de combattants. Parce que c'est toujours pareil. Plus on attaque frontalement, évidemment, plus on va progresser, mais plus on va avoir de pertes. Et très honnêtement, il n'y a aucune raison que les Kurdes, qui quand même supportent, soutiennent, enfin prennent le maximum de risques dans cette affaire, perdent des hommes sur la dernière bataille de manière inconsidérée. Donc ils prennent leur temps. Donc grosso modo, la tactique consiste à avancer, repérer les points de combat, les points de fixation, les positions ennemies. Une fois qu'elles sont repérées, bon, on l'entend bien dans le reportage, le commandant demande à ses différents chefs de compagnie de lui donner les positions. S'ils n'ont pas la certitude, ben, ils vont faire tirer avec de la balle traçante pour voir l'affaire. Une fois qu'ils ont ça, ils rentrent les coordonnées sur la carte, ils appellent les avions de la coalition qui, là, viennent déverser les paquets de bombes, voire les mitrailleuses volantes, parce que là, on entend à un moment un appareil qui est un AC-30, donc qui est un espèce de gunship, c'est un avion qui vole avec des grosses mitrailleuses et des canons et qui arrose la zone. C'est très impressionnant, mais voilà, ça permet d'avancer comme ça.
Mais est-ce que c'est aussi parce que vous parlez quand même d'un déluge de bombes qui est utilisé pour bombarder la zone? Est-ce que c'est, on l'a vu, la présence très importante de civils aussi, évidemment, avec ce souci, bien évidemment, d'épargner des vies?
Alors, il y a le souci d'épargner des vies, alors que sur le terme civil, il faut quand même faire attention, hein, parce que dans le 90% des civils qui sont là sont en fait des djihadistes, sont les épouses.
Il y a encore 2000 personnes qui se sont rendues cette semaine aux forces démocratiques syriennes.
Il y a 3000 combattants qui sont rendus là sur les deux derniers jours. Ils ont quand même tenté une contre-attaque hier en profitant du fait qu'il y avait un vent de sable et que les avions n'étaient pas là, donc qui a été arrêté en utilisant beaucoup de kamikazes.
Ça peut surprendre qu'il y ait encore autant de monde dans ce réduit qui fait à peine un demi-kilomètre carré et qui est la cible des bombardements déjà depuis plusieurs jours.
Oui, alors il y a beaucoup de tunnels. Hein. Honnêtement, quand j'étais sur la ligne de front, là, on était juste à... Il y a ce qu'on appelle le Jebel Barouz, en fait, qui est une espèce de petite falaise qui surplombe les accès aux rives. Et là, c'est totalement percé. C'est comme des champignonnières où les combattants peuvent se mettre à l'intérieur. Ils ont ensuite creusé dessous, donc c'est pas toujours facile d'y aller. C'est quand même des gens déterminés. Vous allez l'entendre, y compris leurs femmes. C'est pour ça que quand je dis civil, il faut faire attention. Il y a une volonté de la coalition et des Kurdes de se comporter selon les règles internationales de la guerre et de respecter ce droit-là. Souvent, d'ailleurs, ce que font les combattants, c'est qu'ils mettent leurs femmes et leurs enfants en surface, sur ce qu'ils appellent des camps de tentes, là, et eux ont creusé en dessous des caches de munitions, pour qu'on puisse pas justement...
Vous parlez évidemment des combattants, des groupes
étatiques. Des djihadistes de Daesh. Donc voilà, c'est... Donc il y a cette volonté aussi effectivement d'épargner, et on a été, oui, assez surpris de voir le nombre qu'ils étaient. En fait, c'est tout ce qui reste du califat de Bagdadi qui s'est retrouvé là. Et enfin, sur les 15 jours où j'étais sur place, il y a quand même presque 15 000 femmes, enfants de djihadistes, plus que des blessés et quelques djihadistes qui se sont rendus, qui sont sortis. Mais 15 000, c'est énorme. Sur une si petite surface où effectivement les conditions de vie... indépendamment même des bombardements, mais pour tout ce qui est hygiène, nourriture, etc., sont extrêmement, extrêmement précaires.
Alors justement, dans un instant, on va voir, comme vous le disiez, que beaucoup de civils ont fui la zone depuis 15 jours et que vous avez pu à cette occasion recueillir le témoignage exceptionnel d'une femme, Dorothée Klein, la femme de Jean-Michel Klein. On va rappeler Jean-Michel Klein qui est
l'homme qui a fait la musique de la vidéo de revendication des attentats de Paris. Et son frère est celui qui a revendiqué les attentats de Paris.
On y revient dans un instant.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Europe 13h13, on garde un œil sur la marche du monde. Reportage et décryptage jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Fabienne Lemoyle.
Retour dans tout terrain sur cette ultime bataille menée contre l'État islamique en ce moment en Syrie avec le grand reporter d'Europe 1 Didier François. Je le disais Didier, beaucoup de civils ont fui Barrouz ces derniers jours. Parmi eux, vous avez pu recueillir le témoignage exceptionnel d'une femme, Dorothée Klein, la femme de Jean-Michel Klein, l'un des deux djihadistes français, vous le rappeliez il y a un instant, qui a prêté sa voix à la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre. On va écouter cette rencontre dans votre reportage.
J'ai rencontré Dorothée Klein et ses 6 enfants au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les combats et les bombardements sur Barrouz. Elle a été recueillie par les forces kurdes qui mènent l'assaut sur le dernier réduit de l'État islamique et elle était installée avec toute sa famille sur une couverture posée dans l'herbe, encore libre puisqu'elle attendait d'être remise aux officiers de renseignement américains qui ont dressé un centre d'interrogatoire en plein air à proximité de la ville assiégée. Dorothée Klein nous a donc affirmé que son beau-frère Fabien Klein, l'homme qui prête sa voix à la vidéo de revendication des attentats de Paris, était bien mort le 21 février dans une frappe de drone et que son mari Jean-Michel Klein avait été très gravement blessé au cours de ce bombardement. Il est décédé il y a 2 jours, frappé par un obus de mortier, ce qui ne semble d'ailleurs pas avoir entamé la détermination et la radicalité de Dorothée Klein.
Plus ils massacrent les gens, plus les gens ça les renforce. Et c'est pas comme ça que leur façon de faire, c'est pas en massacrant les gens, au contraire, ils auront encore plus la haine et ça perdurera. Ici ou ailleurs, ça continuera.
Pas un moment au cours de notre rencontre, elle n'a voulu condamner les attentats de Paris ou le fait que feu son mari ait composé la chanson de propagande de la vidéo de revendication dans laquelle il appelle à égorger tous les Français.
Racontez-nous Didier, comment s'est faite cette rencontre ?
Eh bien, c'est justement, donc les phases de combat sont des phases de 48 heures pour qui essayent un petit peu de faire comprendre aux djihadistes qu'ils n'ont pas d'issue. Puis les Kurdes organisent un cessez-le-feu. Là, dans l'ensemble, ce que les djihadistes demandent, l'évacuation de leurs épouses. Pour ça, quand on parle de civils, oui, effectivement, elles ne sont pas combattantes. Mais enfin, vous l'avez bien entendu.
On entend la détermination de Dorothée Klein. On entendra après, d'ailleurs, ce qu'elle dit par rapport à un éventuel retour en France.
Donc là, évidemment, les Kurdes acceptent les règles internationales de la guerre. Donc, envoient des camions, prennent ces femmes et ces enfants pour les sortir de la ville en acceptant des cessez-le-feu. Elles sont alors amenées... on est à 4-5 km de la ligne de front, en arrière, sur un endroit où elle s'installe là, avant d'être remise aux interrogateurs et d'être arrêtée. Parce que, pareil, vous savez qu'on a un principe dans la presse, c'est qu'on n'interviewe pas de prisonniers, puisqu'ils n'ont pas la liberté de parole.
Et là, ce n'est pas le cas. Au moment où vous l'interviewez, vous précisez bien, elle est libre, elle n'est pas entravée.
Elle sort des camions, elle n'a pas encore été inculpée ou arrêtée.
Mais elle a déjà été repérée, puisque vous connaissez son identité quand vous la rencontrez.
Alors, moi, ce qui attire mon attention, c'est effectivement qu'elle est un peu à l'écart. C'est quand même, un petit statut chez les djihadistes. C'est la femme de Jean-Michel Klein, qui était membre de la direction de l'AMIAT, du service de sécurité. Elle est étrangère, elle est à côté, elle a des enfants, elle a une couverture, les autres n'en ont pas. On voit qu'elle a été mieux nourrie, qu'elle n'est pas dans la situation des femmes syriennes, irakiennes, de djihadistes locaux. Ça m'intrigue, j'y vais. Elle répond très 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 facilement à mes questions, mais pour une raison simple, c'est qu'elle reste, elle fait de la propagande. C'est ça qu'il faut garder en tête. Elle ne regrette en rien.
Oui, parce qu'on entend, elle vous parle, je crois que vous avez parlé avec elle pendant près d'un quart d'heure, elle vous parle... facilement
oui, elle refuse de condamner
les attentats. Et on se demande ce qu'elle attend de cette interview, justement.
Eh bien, je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si elle ment ou elle ment pas sur un certain nombre de gens dont elle dit qu'ils sont morts, parce que justement, pour essayer de les protéger.
Parce qu'effectivement, avec cette interview, elle authentifie le fait que Jean-Michel Klein et Fabien Klein seraient morts.
Voilà. Alors, ça, Fabien Klein, il y a une quasi-certitude sur le sort de Jean-Michel Klein. Il y a un doute. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'ADN, eh ben, on restera à déclaration et interrogation.
Et on rappelle encore le rôle qu'ils ont joué, tous les deux.
Bien sûr, ce sont les deux frères qui sont membres de la cellule de propagande des opérations extérieures de l'État islamique et qui ont donc assumé les attentats de Paris, du Bataclan. Attentats d'ailleurs qu'elle refuse absolument de condamner et dont non seulement elle refuse de les condamner, mais elle les justifie dans l'interview.
Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans ce dialogue que vous avez eu avec cette femme ?
Non, mais je pense que ce qu'il faut, c'est réaliser le degré de dangerosité de ces gens, qu'il n'y a pas que les hommes. Alors, on oublie toujours que les femmes peuvent aussi avoir des convictions et qu'elles peuvent être aussi radicales que ne le sont leurs époux ou leurs maris ou leurs compagnons. Dans le cas particulier, c'est pas très compagnon là-bas. Mais je veux dire, c'est pareil. Je vois aujourd'hui, on a des pétitions qui sortent sur la question des enfants. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Évidemment que c'est terrible de voir ces enfants dans cette situation-là. Mais rappelons quand même que, pour le coup, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. La responsabilité, elle est d'abord aux parents. Et la France, de ce point de vue-là, applique le droit international.
D'ailleurs, on va y revenir justement dans un instant. On va d'abord écouter Dorothée Klein, justement, quand vous lui demandez si elle souhaite rentrer en France. On va écouter sa réponse.
Je ne veux certainement pas rentrer en France. Je veux que la France me laisse tranquille, parce que je sais très bien que si je vais en France, on va me mettre en prison, on va m'enlever mes enfants. C'est eux qui ont tué mon mari et mes enfants. Mes enfants, ils ont besoin de moi. Là, j'ai une mesure construite. J'ai envie de pouvoir faire le deuil de mes enfants, de mon mari, parce que je n'ai pas pu le faire. Et je ne demande rien à la France. Je n'ai pas de regrets. Je ne peux pas vivre en France. Donc, je suis musulmane. Je pratique ma religion. Oui, pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller ailleurs, partir ? Normalement, les Français, ils devraient être contents. Je ne peux pas pratiquer ma religion. Ma religion, elle vous dérange. Je vous dérange. Je pars. Laissez-moi tranquille.
Voilà ce que vous dit Dorothée Klein. Donc, on a bien compris pour elle. Pas question de réclamer le fait de rentrer en France. Dorothée Klein, aujourd'hui, c'est quoi son sort ?
Alors, elle a été interrogée par les services spécialisés et elle va être, en fonction de sa dangerosité, d'abord mise dans un premier camp qui est un camp de filtrage à El Hol, qui est donc un peu plus loin du côté de la Sakié. Et ensuite, elle sera soit poursuivie pour ses responsabilités, soit elle restera dans ce camp le temps que les enquêtes soient faites.
Merci beaucoup Didier François. Et on vous retrouvera demain dans les Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer. Et je crois que vous reviendrez plus particulièrement sur la situation des Kurdes et le poids qu'ils ont justement dans cette offensive actuellement contre l'État islamique.
Oui, cette chose de voir ces jeunes combattantes kurdes sans voile face à ces femmes entièrement voilées. Cette espèce de confrontation est parfois très étonnante.
Merci beaucoup Didier.
Europe 1.
À suivre, le procès de Bernard Tapie depuis lundi à Paris. Bernard Tapie qui attendait ce moment depuis des mois pour s'expliquer et dire sa vérité. Bernard Tapie qui n'hésite pas à se présenter comme acteur devant les juges.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les économies, c'est moi. Pour économiser, j'ai un truc imparable. Je fais pousser des bons d'achat. Enfin, j'essaye, mais c'est pas folichon. C'est peut-être pas la saison. Non, les économies, c'est moi. Et Gamme Vert.
Eh oui, économiser avec Gamme Vert, ça change tout. Jusqu'au samedi 16 mars, Gamme Vert vous offre 10 euros en bon d'achat tous les 60 euros d'achat. Oui, 10 euros.
Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.
Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'audicule de vos rêves. En ce moment, et jusqu'au 20 mars, bénéficiez en exclusivité d'offres exceptionnelles sur une sélection de modèles en quantité limitée et disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur audi.fr.
Offre réservée aux particuliers. Voir détails et conditions sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour et Carrefour Market, les artichauts sont à prix exceptionnel.
Mais oui, bien sûr. Des artichauts au prix du caviar, en fait.
Ah non, 69 centimes la pièce.
Ah, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Hein.
Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les artichauts sont à seulement 69 centimes la pièce. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Origine Espagne, variété Calico, Sylvia, Green Queen, catégorie 1, calibre 15. Détails produits et liste des magasins ouverts dimanche sur carrefour.fr.
Je suis bien dans ma maison, quelle que soit la saison. Quand vient l'été, j'aime les ardés. Sous ma pergola, je me sens vraiment moi. Du petit déjeuner aux nuits étoilées.
Monsieur Store, vos offres coup de cœur en ce moment, je les adore. Moins 25% sur une sélection de stores, volets, portails, portes d'entrée.
Monsieur Store,
mille façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet? Appelez vite votre magasin ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse, elle sait tout faire et c'est délicieux. Elle, c'est Rebecca, Rebecca K.O., artisan chocolatière et son nouveau Citroën Berlingo Van, avec 20 aides à la conduite et le véhicule utilitaire de l'année.
Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. En ce moment, nouveau Citroën Berlingo Van Club est à partir de 139 euros par mois, maintenance comprise.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2499 euros, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 31 mars, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr.
Bonjour à tous les voyageurs. Nous voilà sur la route des séries limitées. Oh, regardez, une fibre starter qui passe. C'est une espèce très rapide à 10 euros par mois. Oh, elle s'arrête devant nous. Dépêchez-vous d'en profiter, hein, elle va repartir très vite. Eh ben ça y est, elle est partie.
Jusqu'au 18 mars chez SFR, avec la série limitée Starter, la fibre est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Rendez-vous en magasin SFR.
Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 29 euros.
Vous écoutez Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle. Et maintenant, Fabienne, à 13h23, on va revenir sur le procès de Bernard Tapie.
Nouvel épisode depuis lundi dans le feuilleton Tapie Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires est jugé à Paris pour escroquerie. Au cœur de ce procès, l'arbitrage pour solder le litige entre la banque et l'homme d'affaires sur la vente d'Adidas, avec à la clé plus de 400 millions accordés à Bernard Tapie en 2008.
Ce qui est reproché à Bernard Tapie, c'est d'abord d'avoir convaincu l'Élysée et Bercy de mettre un terme à un bras de fer judiciaire de 20 ans en choisissant de purger son litige avec le Crédit Lyonnais par un arbitrage, une procédure qui fait appel à trois juges-arbitres supposés indépendants. Sauf que l'un d'entre eux connaissait l'avocat de l'homme d'affaires et ne l'a pas mentionné, d'où les soupçons de fraude et d'arrangement entre amis. Une vision des choses que contestent Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourne.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui nous faites vivre depuis lundi sur l'antenne ce procès. Alors Bernard Tapie l'a dit, répété à longueur d'interview, ce procès, il l'attendait pour que, dit-il, la vérité éclate. Alors depuis lundi, quelle attitude adopte-t-il devant les juges? Lui qui s'est présenté d'ailleurs comme acteur quand on lui a demandé de décliner sa profession.
Eh bien alors devant les juges, Bernard Tapie est un homme avant tout combatif, on peut même dire que c'est ce qui le tient debout, car on voit quand même à quel point il a les traits marqués. Vous savez qu'il lutte contre un cancer de l'estomac, il n'en fait pas mystère. Il a même dit qu'il a fait le choix d'arrêter son traitement le temps du procès pour ne pas être ensuqué par les médicaments. Alors pour les non-sudistes, ensuqué, comprenez abruti par les médicaments. Donc c'est dire s'il tient à être attentif et réactif à ce procès qui va durer 4 semaines. Alors concrètement, Tapie, eh bien, il fait du tapis. Il grogne, il fulmine, il proteste. Il interrompt même la présidente pendant son rappel des faits en s'indignant d'un résumé à charge. Autant dire que c'est très inhabituel, mais il faut avouer quand même qu'il est impressionnant quand il prend la parole, puisque malgré quelques trous de mémoire, eh bien, il a un récit construit, il a une verve intacte, il a l'ironie de ses heures de gloire et il déploie une énergie considérable pour se défendre. Alors évidemment, côté partie civile, ça agace pas mal, comme en témoigne Maître Benoît Chabert, avocat du CDR, qui est l'organisme chargé de solder le passif du Crédit Lyonnais.
Le procès est souvent l'objet de prises de parole théâtrales. Moi, en tant qu'avocat du CDR, je suis là pour faire du droit et pas pour faire du théâtre. Laissons à M. Tapie le choix de sa stratégie. En fait, Bernard Tapie recrée l'histoire, mais tout ça est totalement étranger à la seule question, l'arbitrage est truqué et ce trucage est-il ou non une fraude?
En tout cas, ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, Chloé, c'est qu'il est vraiment habité par ce dossier, hein, Bernard Tapie, qu'il porte depuis des années. On l'a beaucoup entendu dans les médias avant le procès, mais alors depuis que l'audience a commencé, moi je n'ai entendu aucune interview, ça veut dire qu'il ne vous parle plus à vous, journalistes ?
Alors oui et non, parce qu'en fait, il entre et sort du tribunal par un circuit protégé des regards et surtout, il faut dire, protégé des photographes, des micros et des caméras. Alors, on peut tout à fait comprendre qu'il n'ait pas envie d'être bousculé, parce qu'il est quand même très fatigué par son cancer, mais on peut se demander aussi si, en termes d'image, eh bien, ça ne l'arrange pas d'éviter toute prise de vue de lui dans un tribunal. Donc, autant avant
c'est-à-dire
le procès...
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune photo de lui à l'intérieur du tribunal, ce qui aurait pu être possible avant le début de l'audience.
Alors, en tout cas, pas devant la salle. S'il y a un barriérage, en fait, policier qui est assez conséquent, et donc on est parqué un petit peu plus loin, de loin avec des téléobjectifs, j'imagine que c'est faisable. Enfin, tout est fait pour éviter le contact, en réalité. Alors, autant avant le procès, eh bien... Il a fait le tour des plateaux télé, des plateaux radio.
On se souvient qu'il est venu à Europe 1 et qu'il est parti avec fracas, effectivement.
Voilà, alors autant maintenant que c'est le temps du procès, effectivement, eh bien, on ne l'entend plus devant le moindre micro. D'ailleurs, pas plus que ses avocats, ce n'est pas leur habitude. Il ne parle jamais dans tous les procès.
Il ne commente pas l'audience jour après jour.
Jamais, ce n'est pas du tout le style du cabinet Temim. En revanche, eh bien, à l'intérieur de la salle, c'est complètement autre chose. Ça a donné lieu d'ailleurs à une scène qui n'est pas banale lors d'une suspension d'audience. Bernard Tapie est venu près des bancs de la presse pour nous convaincre, pour nous haranguer en quelque sorte, façon mini-conférence de presse en off, comme on dit. Eh bien, sauf que cette scène est remontée jusqu'aux oreilles de la présidente, qui n'a pas du tout apprécié.
C'est-à-dire, il est venu vous dire quoi, concrètement ?
Il est venu nous refaire l'histoire, chiffre à l'appui, en expliquant qu'il avait raison, qu'il a été dupé par le Crédit Lyonnais, que l'arbitrage, c'était la seule solution possible. Enfin, il revit son histoire et il la vit avec conviction. Bon, toute cette scène était assez originale, on va dire.
Vous qui êtes habitué des procès, vous avez rarement vu ça.
Bon, ça se fait de temps en temps, mais vraiment, c'est pas l'usage, on va dire. Vous savez que la justice, c'est quand même assez feutrée. Il y a des règles, il y a des usages, il y a des convenances. Bon, c'est pas le genre de Bernard Tapie de respecter les convenances, soyons clairs. Bon, tout ça est remonté jusqu'aux oreilles de la présidente, je vous disais. Elle n'a pas du tout aimé. Hein. Madame May n'a pas du tout aimé. Et depuis, elle nous a repris un peu tout le monde. Elle a fait savoir qu'on n'était pas au spectacle, déjà. Et puis depuis, elle fait évacuer la salle à chaque suspension. Alors ça, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu puni. Hein. C'est suspension, tout le monde dehors. En fait, je pense qu'elle veut tout simplement éviter que la scène se reproduise.
Alors, deux jours ont été entièrement consacrés à Bernard Tapie. Cette semaine, il a beaucoup parlé, Chloé. Mais quelle portée peuvent avoir ses déclarations sur la décision finale des magistrats ? On va en reparler dans un instant avec vous. Europe 1.
Europe 1. 13h32, tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 se poursuit avec vous, Fabien Nemoile, et on va continuer à parler du procès de Bernard Tapie.
Retour effectivement dans tout terrain sur le procès de Bernard Tapie qui s'est donc ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. On le disait, Chloé Triomphe, Bernard Tapie attendait ce procès pour que la vérité éclate sur son litige avec l'ex-Crédit Lyonnais. Alors il parle beaucoup depuis le début de la semaine, sans vraiment qu'on lui apporte la contradiction. D'après ce que vous m'avez dit, quel poids vont avoir ces déclarations dans le jugement final ?
Attendez, je voudrais quand même pas dire que la justice est inexistante. La présidente pose des questions, les deux procureurs posent des questions, mais c'est vrai que grosso modo, même quand il n'y a pas de réponse, il est assez peu titillé. On a déjà vu des questions plus pressantes.
On dit ça parce qu'en fait, deux jours ont été consacrés clairement uniquement à son audition cette semaine.
Exactement. C'était mardi et mercredi. En tout cas, il faut quand même avoir conscience qu'on est devant un tribunal correctionnel. Il y a trois magistrats et même quatre, puisqu'il y a, en plus de la présidente et de ses deux assesseurs, un assesseur supplémentaire. Ce sont eux seulement qui vont juger en prenant probablement le temps, peut-être des mois après l'audience, pour rédiger leur jugement. La présidente connaît le dossier sur le bout des doigts et Dieu sait qu'il est énorme. Le tribunal va faire du droit, en fait. Il n'y a pas de place pour l'intime conviction, vous savez, qu'on a aux assises, où c'est le serment que prêtent les jurés populaires. Donc finalement, eh bien, les éléments qui sont au dossier vont compter au moins autant que les explications des prévenus à la barre.
Alors, vous nous l'avez dit, Bernard Tapie ne cache pas qu'il a arrêté ses traitements pour son cancer durant la durée du procès. Est-ce que du coup, le planning a été aménagé ?
Alors, les audiences sont assez courtes. Ce sont des petites demi-journées. En général, on ne finit pas tard le soir. Et puis, quand il y a une pause dans l'après-midi, elle dure une petite demi-heure pour que Bernard Tapie puisse vraiment se reposer. On le laisse aussi s'asseoir dès que possible dans la salle. Et puis, en plus, il n'est pas le seul avec qui il faut composer, puisqu'il faut quand même rappeler que l'un des autres prévenus, Pierre Estoupe, est un vieux monsieur, il est quand même âgé de 92 ans.
Parce que quand on vous écoute, on pourrait penser qu'il n'y a que Bernard Tapie qui est devant les juges, mais non, il y a d'autres personnes qui sont jugées. Et qui sont ces personnes ?
Alors, ils sont six au total. Il y a Bernard Tapie, on en a longuement parlé, évidemment. À ses côtés, il y a son avocat toujours, Maurice Lantourne, qui est un vieux routier du barreau, qui est une pointure, qui a notamment défendu Loïc Le Floch-Prigent ou encore Gérard Longuet. C'est devenu, au fil des années, un ami, vraiment un proche de Tapie. Et Maurice Lantourne est accusé d'avoir manœuvré en coulisses auprès de Pierre Estoupe en amont de cet arbitrage. Il y a donc aussi ce fameux Pierre Estoupe.
Qui est qui ?
Qui est un haut magistrat à la retraite, au sérieux incontesté. Donc c'est lui qui est âgé de 92 ans. C'était l'un des trois juges-arbitres du tribunal arbitral qui a attribué 400 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008 pour solder les comptes entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais dans le dossier Adidas. Donc c'est pour ça que lui aussi est renvoyé devant le tribunal. Il y a quatrième prévenu, Stéphane Richard, donc c'est l'actuel PDG d'Orange. À l'époque, il était le directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, donc il a largement, de par son poste, contribué à donner le feu vert pour entrer en arbitrage. Et puis, il y a Jean-François Rocky et Bernard Semama, qui sont moins connus du grand public, qui étaient deux anciens directeurs du CDR. Alors, en fait, ceux qui se parlent tout le temps, eh ben, c'est Tapie et Lantourne. Et c'est assez cocasse d'ailleurs, parce que Maurice Lantourne a beau être lui aussi sur le banc des prévenus, donc lui doit aussi se défendre. Mais en fait, quand c'est Bernard Tapie qui est interrogé, eh ben, naturellement, Tapie se retourne vers Lantourne pour chercher des réponses, pour être secondé. C'est quasiment un de ses avocats aussi à l'audience.
Qu'est-ce qui va jouer, en fait, Loé, dans ce procès qui va durer 4 semaines ? C'est vraiment l'épilogue d'un feuilleton qu'on suit année après année depuis quand même les années 90. Il y a déjà eu un jugement au civil, on va le rappeler, qui a condamné Bernard Tapie à rembourser l'argent de l'arbitrage, un procès devant la Cour de justice de la République. Qu'est-ce qui joue là, dans cette audience, devant le tribunal correctionnel de Paris ?
Eh bien là, on parle d'escroquerie et de détournement de fonds publics. Donc, en cas de condamnation ou de relax, vous imaginez que la suite n'est pas exactement la même pour les intéressés. D'abord pour Bernard Tapie, évidemment. Ensuite, pour Maurice Lantourne, son avocat. C'est compliqué pour lui de continuer à exercer en cas de condamnation. Je ne vous parle pas de Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Est-ce que vous imaginez un PDG condamné pour escroquerie ? Et puis, pour Pierre Estoupe, cet ancien haut magistrat à la retraite, eh ben, ça serait effectivement une triste fin de carrière. L'enjeu financier, c'est vrai Fabienne, en fait il est ailleurs, puisque vous l'avez dit, il a déjà été condamné à rembourser les 400 millions d'euros qu'il avait obtenus en 2008. Donc ça c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2015 qui avait annulé la sentence arbitrale. Bernard Tapie n'a toujours pas remboursé. Et puis, il y a d'autres procès encore à venir, notamment devant le tribunal de commerce. Et là, on parle vraiment de finances, d'argent, d'affaires. Cette fois, Bernard Tapie risque encore une fois d'être mis en liquidation judiciaire.
Donc on le voit, une procédure vraiment au long cours qui date des années 90, un procès qui va durer encore
trois semaines,
qu'on va suivre avec vous, évidemment, au quotidien sur Europe 1. Et qui ne sera sûrement pas le point final de ce feuilleton, si je vous écoute bien, Chloé.
Exactement.
Merci beaucoup. Europe 1. À suivre, avis aux volontaires du service national universel, la campagne est lancée pour ceux qui veulent passer 2 semaines à suivre ce service citoyen dans 3 départements pilotes au programme Levée de drapeau marseillaise, mais pas que, comme nous allons le voir avec Carole Ferry dans le Puy-de-Dôme.
13h, 14h,
l'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bienvenue, si vous voulez nous rejoindre sur Europe 1 jusqu'à 14h, c'est Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et vous écoutez Fabienne Lemoyle.
C'était une des promesses de campagne du candidat Macron, le service national universel. Et ce SNU va commencer à être expérimenté dans 13 départements à partir du mois de juin, comme dans ce centre du Puy-de-Dôme que nous a fait découvrir Carole Ferry dans Vous êtes où ce matin cette semaine.
Pour nos auditeurs qui ont des ados à la maison, eh bien, c'est le moment d'écouter. Ah. Je suis à Orsines, à côté de Clermont-Ferrand. Bien. Et vous avez ici l'un des 13 centres qui va servir de laboratoire au SNU, vous savez, le Service National Universel. Mmh. Visite des lieux avec le responsable du projet dans le Puy-de-Dôme, Philippe Destable.
Nous sommes au cœur des volcans d'Auvergne et on a face à nous les pavillons dans lesquels seront accueillis les jeunes.
C'est très vert, hein ?
Ah oui, on y respire ici. On va prendre un grand bol d'air frais et de citoyenneté au mois de juin.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
On l'a bien compris, vous avez pris un bon bol d'air. J'ai vu les photos, on peut les retrouver d'ailleurs sur Twitter. C'est quoi ce centre exactement ?
Mais en fait, c'est un centre de vacances qui sert notamment aux enfants de militaires. Il n'a donc pas été construit spécialement pour le SNU. D'ailleurs, ça fait plutôt années 70 hein, du côté du bloc sanitaire. Mais c'est vraiment un endroit très agréable avec des petites maisons en pierre de volcan, un terrain de basket, très colonie de vacances. Et vous aurez donc des maisons de garçons et des maisons de filles puisque ce SNU, eh bien, il est mixte.
Voilà pour l'écrin avec ses petites maisonnées. Mais qu'est-ce que ces premiers volontaires vont y faire pendant 2 semaines?
Mais écoutez, c'est encore en pleine réflexion. Une chose est sûre, il y aura une levée de drapeau au réveil, le chant de la Marseillaise. Pour le reste, vous avez 40 personnes qui travaillent en ce moment rien que sur cette question à Clermont-Ferrand. J'ai quand même découvert quelques pistes avec toujours le responsable du projet, Philippe Destable.
Ils vont d'abord faire des activités de formation. On va faire appel à des militaires qui viendront évoquer le déploiement des forces militaires françaises dans le monde. On va avoir des pompiers qui vont venir sans doute apprendre aux jeunes un certain nombre de gestes de secours, de réflexes à avoir. On étudie la question un peu de sport de combat ou d'autodéfense aussi, parce que ça peut aussi être une des attentes des jeunes. On va voir, on va aussi tenir compte de ça. On s'autorisera aussi des sorties. Ça pourrait être visiter une caserne de pompiers, un hôpital, un lieu de mémoire. On a eu des maquis par ici, des résistants hein, qui ont eu un comportement admirable pendant la guerre. Donc ça vaut la peine peut-être de le découvrir. On est en train d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Mais on sera malgré tout dans un cadre réglementaire qui est celui des colonies de vacances, parce qu'on a des jeunes mineurs, mais pas dans un esprit militaire, certainement pas.
On le voit donc, un programme qui est encore en pleine construction, mais ce qui a étonné les organisateurs, c'est qu'en fait, ils ont eu pas mal d'offres, de services.
Oui, il y a beaucoup de monde hein, qui est venu les voir pour leur dire bah, « Nous aussi, on aimerait bien apprendre des choses à ces jeunes, on aimerait leur faire partager nos expériences. » Vous avez la Croix-Rouge, par exemple, mais aussi des entreprises, des associations. Vous avez même l'association des porteurs de drapeaux. Vous savez, ces anciens qui portent les drapeaux tricolores lors des commémorations. Eh bien, ils ont demandé à venir rencontrer les jeunes qui seront accueillis à Orsines. Ça crée en fait une vraie dynamique dans la région.
Une dynamique qui touche même, je crois, les producteurs locaux. Ça peut surprendre.
Et oui, exactement, parce que la question s'est posée de savoir mais qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les assiettes? Et forcément, eh bien, il faut montrer un peu l'exemple. Alors là aussi, il y a toute une réflexion sur les circuits courts, l'impact carbone des repas. Il y aura également des ateliers de tri pendant les repas. Il y a vraiment cette idée d'en profiter pour faire passer finalement un maximum de messages civiques.
Beaucoup de messages, on l'entend, mais qu'est-ce que les jeunes pensent justement de ce service national universel?
Alors écoutez, je suis allée leur poser la question hein, dans le lycée juste à côté, le lycée de Chamalières, et les avis sont assez partagés.
C'est quelle que soit son origine, se retrouver et partager des moments d'activité et développer des liens.
Par exemple, quand on peut le voir au lycée, il y a des personnes qu'on n'est pas du même milieu social, et ben elles vont pas venir vers nous. Alors que si on fait tous ce même programme, et ben on pourra se rencontrer et du coup ben, créer des amitiés.
Je pense que c'est vraiment une bonne idée de vraiment insister sur le point des valeurs républicaines, le lever des couleurs le matin avec la Marseillaise. Ça permet de montrer aussi qu'on a beaucoup de ressemblances.
Ça va nous faire gagner en maturité, en assurance, en autonomie, parce que donc on va apprendre à faire notre lit, à se lever tôt le matin, à faire la levée de drapeau.
Alors il faut pas non plus que ça soit trop militaire ou trop strict, parce que ça pourrait beaucoup bloquer le volontariat de certaines personnes.
Bah moi j'aimerais pas y aller, parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on nous met dans des prisons et on nous oblige à faire du sport. Après ceux qui y vont ils sont courageux, hein. Moi tout mon respect à eux, hein. C'est pas pour moi.
Bon, on le voit, des avis partagés, et que cette dernière jeune fille se rassure, c'est bien sur la base du volontariat.
Oui, je vous confirme. Mais le but, c'est quand même que ça devienne obligatoire à terme. Cet été, ce sera vraiment expérimental, mais ensuite, le dispositif doit monter en puissance. Ça pourrait être étendu aussi à d'autres départements. En 2026, le SNU devrait concerner 800 000 jeunes et devenir donc obligatoire. Pour pouvoir accueillir tout le monde, il y aurait peut-être même l'idée de camps montés en tente, un peu comme des scouts en fait.
Alors, il y a une particularité aussi, c'est que finalement, les jeunes qu'on vient d'entendre, ils ne pourront pas être dans leur département.
Tout à fait. Le principe, c'est qu'ils gagnent en autonomie, qu'ils découvrent de nouveaux horizons. Donc, les jeunes clermontois qui se porteraient volontaires, par exemple, eh bien, ils pourront être accueillis partout, sauf à Orsines.
Et puis la grande révolution, c'est que pas de téléphone, c'est ça? Pas de téléphone portable, pas d'écran?
Pas de téléphone portable. En tout cas, la journée. Le soir, ils pourront appeler leurs parents.
Et coucher 22h30.
Entre 22h et 22h30, c'est pas totalement décidé.
Merci beaucoup, Carole.
Merci à vous, Fabienne.
Europe 1.
À suivre, la Joconde nue a-t-elle été exécutée par Léonard de Vinci? 150 ans que la question se pose depuis que l'œuvre est au musée de Chantilly et des experts ont passé le dessin au crible.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Il est tout juste 13h49, nous sommes toujours avec vous Fabienne Lemoyle et on termine ce tout terrain avec un mystérieux dessin.
Cela fait 150 ans que le mystère demeure. Le musée de Chantilly abrite-t-il un dessin du maître Léonard de Vinci? Dessin baptisé la Joconde nue, question à laquelle des experts ont tenté d'apporter un début de réponse cette semaine, comme nous l'expliquait Diane Chenouda.
Elle a le même sourire mystérieux que la Joconde, la même pose, main croisée, mais seins nus.
Vous avez un modèle tourné trois quarts qui nous regarde fixement en esquissant un sourire, comme la Joconde du Louvre.
Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Culture d'Europe 1, pourquoi la question de la paternité de ce dessin ressurgit tout d'un coup aujourd'hui?
Mais écoutez, c'est très simple, hein. C'est la grande année Léonard de Vinci, vous le savez, on célèbre les 500 ans de sa mort, et c'est pour ça que le château de Chantilly a décidé de monter cet été, dès le mois de juin, une exposition autour de son mystérieux dessin. Cette Joconde nue, qui avait été achetée en 1861 par Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, fils du dernier roi des Français, le plus grand collectionneur du 19e siècle, hein, ce duc d'Aumale, il l'avait acheté comme un Léonard, hein, cette Joconde nue. D'ailleurs, sur la Marie-Louise, encore aujourd'hui, j'ai vu le dessin, hein, à Chantilly, il est extraordinaire, est inscrit Léonard de Vinci, la Joconde. Mais certains ont commencé à contester que ce soit un vrai Léonard, car on la trouvait étrange, cette Joconde. Et donc, pour en avoir le cœur net, le château de Chantilly a fait examiner son dessin par les scientifiques du centre de recherche et de restauration des musées de France.
Alors comment ces scientifiques ont procédé pour essayer de lever ce mystère qui a plus de 150 ans?
Oui, eh bien ils ont passé au peigne fin cette Joconde nue, qui est un dessin au charbon très fragile, hein, et avec toute une batterie d'imagerie. Écoutez, Mathieu Deldic, c'est le conservateur du musée Condé qui possède ce fameux dessin au château de Chantilly.
Techniquement, il y a eu toute une batterie d'analyses, d'imagerie qui a été réalisée, la fluorescence infrarouge, les rayons UV, la lumière rasante, etc., qui ont essayé d'entrer vraiment de manière très très poussée dans les moindres détails, donc tous ces trous de piquage, l'analyse des hachures, voir aussi que certaines parties sont abîmées et donc il fallait, grâce à d'autres images, voir quelle était la qualité sous-jacente. Tout ça a permis de vraiment de révéler la nouvelle icône qu'est la Joconde nue de Chantilly.
Alors révéler, mais au final, le verdict c'est quoi?
Eh bien, Vinci, une certitude, cette Joconde nue sort de l'atelier de Léonard de Vinci, ça c'est une certitude. Mmh. L'analyse du papier a montré qu'elle avait été réalisée au même moment que la Joconde, que ce n'était pas une copie mais bien un original. On le voit au repentir et puis il y a ces passages d'ombre à la lumière qui estompe les contours, ce fameux sfumato, cette technique chère à Léonard de Vinci. Mais la découverte la plus sensationnelle, Fabienne, c'est que cette Joconde nue est l'œuvre d'un gaucher. Écoutez.
Grâce à l'analyse des hachures, hein, qu'on retrouve un peu partout sur le dessin, on voit que c'est un artiste gaucher qui a tracé ce dessin. Et vous savez que Léonard de Vinci était gaucher. Alors il y a un autre élève dans son atelier talentueux lui aussi qui est gaucher. Donc ce qu'on peut dire en effet, c'est que c'est une œuvre créée dans l'atelier de Léonard de Vinci avec la probable participation ou qu'une grande partie de cette œuvre ait été réalisée par Léonard de Vinci, mais que nous n'en aurons jamais peut-être la certitude.
Ah, voilà, donc hein, quand même, oui.
Verdict mitigé, ouais, mais voilà.
Il y a un
donc
petit doute, mais enfin bon, ça pourrait quand même être entièrement exécuté de la main de Léonard. Vous savez, dans son atelier, il n'était pas rare que le maître commence le dessin et qu'il était ensuite retravaillé par un de ses disciples ou l'inverse.
Voilà, on va laisser le mystère. Mmh. Et on rappelle que le mystère de cette Joconde nue fera l'objet, en tout cas, d'une formidable exposition à Chantilly. Ce sera à partir du 1er juin.
Oui, une expo qui sera montée justement un peu comme une enquête policière. Il faut y aller, car elle ne pourra jamais sortir du château de Chantilly, cette Joconde nue, justement. Car le duc d'Aumale, qui l'avait achetée, puis léguée au musée Condé à Chantilly, bien, il a refusé qu'elle sorte du musée.
Merci beaucoup, Diane Chenouda.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Didier François, Chloé Triomphe, Carole Ferry et Diane Chénouda à l'instant. Un grand merci aussi à Capucine Patouillet pour la coordination, à Kevin Ousty pour la réalisation et à Cyril Pascal à la console. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr et demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
C'était Fabienne Lemoyle. À ce soir, Fabienne pour le journal de 18h sur Europe 1. Dans un instant, on va retrouver Christophe Ondelat qui nous fera le récit de Kamoué, un rescapé africain, l'histoire d'un ado qui a choisi d'émigrer en France. Il avait 14 ans quand ses parents ont été assassinés sous ses yeux par des miliciens politiques. Il a traversé des déserts, la Méditerranée, il a affronté la peur, la faim, la violence des passeurs, 3 années infernales pour rejoindre la France. Ondelat raconte donc son histoire à 14h après les infos. Et puis à 15h, eh bien, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet s'entretiendra avec le cinéaste Bertrand Blier.